Comme ça, tu as du son?
Oui.
Ah. Alors, c'est bien, parce que c'était de toute façon inaudible, ce que j'ai dit en premier. Tout ce qu'on a pu vivre ce matin, jusqu'à maintenant, pourquoi est-ce qu'on a pu le vivre? Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est monté au ciel. Parce que il est assis à la droite du Père. À côté du Père. Il est dans la gloire du Père. Et aujourd'hui, c'est l'ascension. Et je voulais pas passer à côté. Exprès parce que, en fait, cette ascension, elle m'a toujours un peu laissée indifférente quelque part parce qu'elle est entre deux choses tellement importantes, entre la résurrection et entre la Pentecôte. Mais je me suis dit, cette fois-ci, l'ascension, elle doit me parler et elle doit vous parler et elle doit transformer quelque chose dans notre vie. Alors, vous êtes d'accord qu'on parte dans ce chemin que ont vécu les disciples? Vous êtes d'accord? Donc, à part ces quatre journées de congé qu'ont certains qui ont de la chance, eh ben, qu'est-ce que l'ascension de Jésus-Christ veut me dire à moi? Veut nous dire à nous en tant qu'Église? On va lire les deux textes qui s'y réfèrent, Actes 1, 3. Et puis Luc 24, 50 à 51. Actes 1, 3 et Luc 24, 50 à 51. À partir du verset 3 dans Actes. Après avoir souffert, Jésus se présenta à eux vivant, à eux, à ses disciples, et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que Dieu avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Mais ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Et dans Luc 24, 50 à 51, c'est tout court. Luc 24, 50 à 51. Il les conduisit vers Béthanie. Donc Jésus conduisit les disciples vers Béthanie, Puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors si on fait un film ou bien un petit tableau devant nous, qu'est-ce qui se passe ? Jésus, dans un des textes, il bénit ses disciples. Et puis, il s'en va. Il les quitte, mais cette fois-ci, c'est spécial. Je pense que les disciples, ils devaient avoir l'habitude d'un Jésus qui venait, qui repartait pendant ces 40 jours. Ils devaient s'être habitués un petit peu, hein, à ce que Jésus les rejoigne et tout à coup, pouf, il n'était plus là. Ou bien, il les rejoignait dans la chambre haute et ils ne savaient pas comment. Donc cette fois-ci, c'est spécial. Il lève les mains pour les bénir. Et il est enlevé au ciel dans les airs. Et comme tu disais, Flo, le ciel, c'est le ciel physique aussi, par rapport à ce qu'il voyait, mais le ciel spirituel. Plus de 4 fois, on voit ce mot ciel. Alors, je crois qu'on ne peut pas se tromper. C'est vraiment dans les ciels, dans le ciel que Jésus est allé. Et puis, moi, ce qui me frappe, c'est que ça a l'air tellement simple, tellement normal. Voilà. En quelques secondes, c'est fait. Ou même pas. Et il est enlevé, c'est traduit aussi par « il est transporté ». Et même, c'est traduit par « il est porté sur l'autel ». Donc, il y a un autel devant le Père, devant Dieu, sur lequel Jésus est transporté. Il a disparu. Alors, on imagine bien ces disciples qui restent là, ils écarquillent les yeux comme nous quand on regarde un oiseau s'envoler. Puis, on a mal à la nuque, on a mal aux yeux à force d'essayer de le suivre du regard. Et puis là, il faut que 2 anges viennent leur dire « Eh oh, pourquoi est-ce que vous regardez ? Pourquoi est-ce que vous continuez de regarder au ciel ? Ce Jésus-là, il va revenir de la même manière. » Donc déjà là, l'annonce du retour. Donc aujourd'hui, on proclame l'ascension, mais on proclame aussi en même temps le retour. C'est un jour de fête, l'ascension. C'est un jour de fête. Et on retrouve des éléments dans ces textes qui nous rappellent quelque chose. Ça vous dit rien, la nuée. La nuée, pas juste un petit nuage, la nuée. La nuée, on la retrouve dans l'Exode quand le peuple d'Israël marche et marche et tourne en rond. La nuée, elle est devant. La nuée, elle est derrière pendant la nuit. La nuée, elle est aussi lors de la transfiguration. La nuée, elle est là. À quel moment encore? Dans le temple. Elle est là dans le temple. Donc, ce qui se passe là, c'est vraiment le signe que tout se passe dans la présence glorieuse de Dieu. Tout est environné dans la présence de Dieu. Et puis, moi, ce qui me frappe dans ces textes, c'est cette joie. C'est cette adoration, tous ensemble. Tous ensemble. Ça change tellement de ce qui s'est passé après la mise au tombeau du Seigneur. Ça change tellement. Il y a cette attente déjà. Hein, ils ne s'éparpillent pas tous dans tous les coins, les disciples, mais ils se retrouvent et ils attendent et ils persévèrent dans la prière. Et puis, si on repense à ce qu'un ange aussi a dit devant le tombeau vide, ben, on retrouve quelque chose aussi dans ces textes. Il y a un ange qui avait dit aux deux Maries devant le tombeau vide, mais pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant. On s'en souvient. Et c'est comme si Dieu, au travers des anges, il disait à ses témoins, à ses disciples, puis il nous le dit à nous aussi, mais attendez là, vous êtes scotchés à quelque chose de visible, comme si tout allait s'arrêter là. Mais non, l'histoire avec un grand H, elle continue. On est en train d'entrer dans une nouvelle étape. On va vers quelque chose de nouveau. Et je pense que ça aussi, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on le garde en tête, hein. Qu'on le garde dans notre cœur. On va toujours vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle étape. Jésus est ressuscité, mais Jésus revient. Alors, on pourrait en rester là. Merci Seigneur, parce que tu es mort sur la croix. Merci Seigneur, parce que tu as payé pour mes péchés. Merci Seigneur, parce que tu as vaincu mon péché et la mort. Tu as vaincu Satan. Tu es retourné au ciel. Merci Seigneur, parce que tu me prépares une place. Hein? On pourrait en rester là. Mais moi, je crois, ce matin, que l'ascension, elle a quelque chose de plus encore à nous apprendre. Et puis Florence, elle m'a presque grillée. Elle a presque tout dit quand elle a introduit ce culte. Mais on est, il n'y a pas du tout de grillage. On est absolument dans la ligne. On est absolument dans la ligne. J'aimerais vous poser une question. Quand Jésus, maintenant que Jésus est assis à la droite du Père, que sa mission est terminée, comment le représentez-vous? Qu'est-ce qu'il fait?
Il intercède.
Sa mission sur terre est terminée. Sa mission au ciel, exactement. Sa mission au ciel, elle se poursuit. Moi, j'avais une image un peu figée, comme ça, d'un Jésus assis sur un trône à côté de son Père. Et je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Pour moi, ici, sur terre, ça vous arrive aussi, je pense. 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux du monde entier. Un avocat. Il est dans la gloire du Père. Il pourrait se reposer dans la gloire du Père. Il s'investit totalement pour nous, pour être notre avocat. Et un autre passage dans Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et puis, le mot grec qui est employé ici, c'est avocat, parakletos, qui signifie appeler à côté. Appeler à côté. Christ met sa robe d'avocat. J'ai cherché s'il y avait un habit spécial pour un avocat et je pensais qu'il y en avait un pour les juges, mais il y a aussi un habit pour les avocats. Jésus se revêt de l'habit d'avocat. Et puis cet habit, j'ai cherché aussi ce que ça voulait dire, c'est un signe de dignité. Et là où l'avocat passe, les autres doivent s'enlever. Alors, s'il doit y avoir un avocat, ça signifie forcément qu'il y a un coupable. Ça signifie forcément quoi encore? Qu'il y a une transgression de la loi ou des accusations ou en tout cas un accusateur ou plusieurs, un juge, un tribunal, un jugement. Mais attention, l'accusateur, ce n'est pas le juge. Donc, toute personne accusée, elle a le droit, et nous avons le droit, de faire appel à un avocat pour défendre notre cause face aux accusateurs, face aux accusations qui pèsent contre nous. Et face au juge qui est un juste juge. Alors pourquoi au ciel Jésus est notre avocat? Pourquoi doit-il intercéder pour nous? Il y a beaucoup de problèmes. Problème numéro 1, même justifié, est-ce qu'on n'a pas plein de péchés dans une journée à se faire pardonner? Même justifié, est-ce qu'on peut faire l'économie du pardon de Dieu? Problème numéro 2, Dieu continue d'être juste, même s'il est notre Père. Dieu continue d'être saint, c'est pas un problème, mais c'est le pourquoi de la présence de l'avocat. Problème numéro 3, péché reste grave, vous le savez autant bien que moi. Comment on se sent quand on a péché? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur comme on l'a fait ce matin de tout notre cœur? Non, il y a une ombre, il y a quelque chose qui pèse. On est coupé de la communion avec Dieu. On est abattu. La joie, elle a fichu le camp. L'allégresse, elle a fichu le camp. L'assurance, elle a fichu le camp. Le problème numéro 4, l'accusateur. Lui, il est toujours là. Son doigt, il est toujours pointé sur nous, sur l'Église en particulier. Et quand il n'arrive pas à nous ébranler par rapport aux épreuves de la vie, il parvient à nous ébranler souvent en nous accusant. Et problème numéro 5, Jésus continue de nous aimer. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Il continue de nous aimer. Et c'est pourquoi il est à nos côtés pour plaider. Et c'est grâce à sa plaidoirie qu'on est pardonné. Alors moi, je me suis intéressée, parce que j'y connaissais rien en études d'avocat, je me suis intéressée à chercher quelles conditions sont requises pour qu'un avocat puisse exercer son métier d'avocat. Alors écoutez bien. Un avocat sur terre, son profil, il doit être intègre, honnête, irréprochable, compréhensif. Son casier judiciaire doit être vierge. Il ne doit jamais se laisser influencer. Notre avocat, dans le ciel, Jésus Christ, habilité à plaider pour moi parce qu'il est irréprochable. Son casier judiciaire est vierge. Il s'est laissé influencer par personne. Il n'a jamais reçu de pot de vin. Il n'a jamais fait aucun favoritisme, ce Jésus qui te défend. On revient sur l'avocat terrestre. Il doit avoir réussi tous ses stages, tous ses examens finaux, traitant du droit privé, public et pénal. Il doit avoir passé avec succès tous ses tests. Notre Jésus, qui plaide pour nous, il a passé tous les tests. Il a passé tous les tests. Et le pire, le test de la croix, sans fléchir, sans faillir. Comme disait Flo il y a une semaine, il y a ces tests internes où on est tenté. Terriblement tenté de faire quelque chose selon le désir de notre cœur. Mais il y a aussi ces tests externes, ces épreuves, ces souffrances. Jésus a passé tous ces tests. Avocat terrestre, il doit avoir prêté serment. Qu'est-ce que c'est un serment? Qu'est-ce qu'il a dit l'avocat terrestre avant de pouvoir exercer son métier? Il a dit « Je me soumets volontairement aux règles juridiques qui valent autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée. » Exemple, la vitesse maximale sur l'autoroute, 120 km/h, par exemple, c'est aussi pour moi si je prête serment en tant qu'avocat. Et notre Jésus, notre avocat, il a prêté serment. Il a dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il s'est soumis à la loi de Dieu. Il était juif, il s'est soumis à la loi juive dans tout ce qu'il a fait. On continue, vous êtes toujours avec moi. L'avocat terrestre. Il est censé, donc ça c'est son cahier des charges, il est censé connaître à fond le dossier de son client, ses antécédents, les circonstances, les causes qui l'ont amené à transgresser la loi. Et c'est là qu'il pourra trouver des arguments pour plaider l'acquittement du coupable. Jésus, est-ce qu'il ne nous connaît pas à fond? Est-ce qu'il ne connaît pas les circonstances de nos vies? Mais l'argument de sa plaidoirie, même s'il compatit avec nos circonstances atténuantes, l'argument de sa plaidoirie, ce n'est pas nos circonstances atténuantes. L'argument, c'est son sang. C'est son sang qui a été porté sur l'autel. C'est son œuvre sur la croix de Golgotha. C'est ça l'argument de sa plaidoirie. Ce sang qui devient éternellement valable pour me justifier. Encore un cahier des charges pour l'avocat terrestre. Il connaît à fond tous les articles de loi qui condamne le coupable. Il ne peut rien changer, il ne peut pas changer quoi que ce soit à ces articles de loi, bien qu'on connaisse beaucoup de scandales où des avocats ont essayé de contourner la loi. Il ne peut pas effacer, annuler quoi que ce soit s'il est un avocat intègre. Et Christ, est-ce qu'il a pu changer la loi? Est-ce qu'il a pu abolir la loi? Il a dit, je suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour accomplir la loi. Et plus, Colossiens 2,14, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait, mais pas parce qu'il avait la puissance ou je sais pas quoi de le faire, mais il l'a annulé en le clouant avec lui. Il a été sur la croix, il a pris l'acte qui nous condamnait, il l'a cloué avec lui sur la croix, en son corps, en son corps. Alors l'avocat terrestre, pour finir, pour terminer. Il fait son métier pour un salaire, vous êtes d'accord? Et le salaire de notre avocat céleste, de notre Jésus. Quel est son salaire? Son salaire, c'est nous. Son salaire, c'est le prix de sa mort sur la croix. Il a gagné notre vie, Il a racheté notre vie, nous sommes à lui. Son salaire, c'est nous, c'est son amour pour nous. Et notre avocat, il ne va pas laisser traîner notre dossier. Au contraire d'un avocat terrestre. Il est au taquet, Jésus. Il se lève ce matin. Pour toi, il s'est déjà levé. Pour plaider ta cause. Il n'a pas les pieds sous son bureau. Et puis, un tas de dossiers devant lui. Où il se dit, oh ben celui-là, il est un peu moins important, je le mets de côté. Il plaide pour toi passionnément. Parce qu'il t'aime, parce qu'il désire glorifier le Père. Alors, la parole, elle dit, dans 1 Jean 3,20, la parole, elle dit, si ton cœur te condamne, dans 1 Jean 3,20, si ton cœur te condamne, Dieu, il est plus grand que ton cœur. On peut se laisser condamner par notre propre cœur. Mais est-ce que c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui et demain et les jours qui viennent? Est-ce qu'on doit trimballer partout des poids qui n'ont plus du tout à être sur nos vies? On peut s'en vouloir pour tellement de choses. On peut même s'en vouloir de ne pas ressentir quoi que ce soit parfois. Des fois, à la réunion de prière, le mardi soir, je me dis, mais je ne ressens rien, alors je me sens coupable. On peut, par contre, se sentir coupable, de toujours se sentir coupable. Hein? Il y a de la sagesse à demander à Dieu, du discernement. Mais il y a parfois une culpabilité, un sentiment de repentance qui vient du Père, parce qu'on sent la tristesse de Dieu, parce qu'on l'a attristé. On ne peut pas rester avec ça. On ne peut pas simplement se dire, bon ben, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts, ça va aller mieux. Et des fois on est tellement orgueilleux, et je trouve que plus je prends de l'âge, plus j'ai de la peine à amener directement ma culpabilité devant l'avocat. Parce que je me dis, mais encore une fois, je refais la même, encore une fois, je tombe, encore une fois, je consulte pas le Seigneur avant de décider quelque chose. Ça m'est arrivé avant-hier, où toute la journée avait été nickel, j'avais tout remis entre les mains de Dieu. À chaque moment de la journée, on avait nos petits-enfants, entre autres, chez nous. Et puis, je priais pour recevoir ce que j'avais besoin pour nos petits-enfants. Et voilà qu'en fin de journée, alors que j'étais sûre de moi, crac, j'ai fait ce que j'aurais pas dû faire. Et je me suis sentie tellement triste au fond de moi-même que j'ai eu beaucoup de peine à amener ça devant Dieu. Devant Jésus, puis à saisir ce pardon. Parce que je me disais, mais non, c'est pas possible. Ça peut pas bien se passer comme ça et tout à coup, craquer. Hein, on est tellement, on a des arguments à faire valoir. Alors que la plaidoirie de Christ repose sur son sang et que j'ai qu'à accueillir, c'est d'une simplicité énorme. Mais là, on voit à quel point l'accusateur veut nous retenir. Alors, il y a urgence ce matin, et on va prendre la Sainte Cène tout à l'heure, mais il y a urgence pour laisser la place à notre avocat et se saisir de ce qui nous a acquis à la croix pour nous pardonner, pour que le Père nous pardonne, pour que l'accusateur et les accusations soient défaites. Je crois qu'il y a urgence. Jésus nous aime tellement. Il ne veut pas nous laisser ressortir de ce culte avec des poids ou des choses qu'on minimise aussi. Seigneur, Seigneur Jésus, je te remercie pour l'ascension, pour ta position dans le ciel, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute accusation, ta position de gloire à côté du Père, et pourtant, ton rôle d'avocat, ce rôle que tu as endossé pour nous, où tu continues de t'investir pour nous, où tu continues de plaider pour nous, à tout instant, pour que ton sang qui est sur cet autel éternellement valable soit valable pour moi aujourd'hui. Seigneur, je te remercie parce que tu es mon avocat. Et je te demande de venir me montrer ce que je dois t'amener, ce qui attriste le Père, ce qui me coupe de ta communion. Je te demande que tu viennes me montrer. Saint-Esprit, je me défais maintenant de ce qui traîne, de ce qui pèse, de ce que je trimballe sur moi, qui m'empêche de comprendre ton amour. Je me délie de ce fardeau parce que tu es là à mes côtés et que mon dossier, il est déjà traité. Parce que ton sang, il me justifie, il me pardonne. Je te demande pardon de traîner encore telle et telle chose. Mettez des mots sur votre prière. Ces choses qui reviennent, ces choses où je n'ai pas fait la démarche d'accepter que ton sang vienne et me purifie. Merci Père pour ta tendresse. Merci parce que tu nous rassembles pour vivre ce moment. Et Seigneur, tu veux nous montrer encore et encore qui tu es. Un Père tendre qui n'a de désir que ce qu'on soit en communion avec toi. Qu'on puisse comprendre ton cœur de Père qui s'attriste lorsqu'on garde des péchés cachés, oubliés. Ton cœur qui s'attriste quand on s'endurcit. Aide-nous, Saint-Esprit, à mieux te connaître, à mieux connaître le cœur du Père, à mieux connaître notre avocat, à mieux comprendre ce qui se passe au ciel pour nous maintenant. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.